Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Philippe Aguillon, professeur au Collège de France, membre du Cercle des économistes, également enseignant à l'INSEAD, co-auteur du Pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme chez Odile Jacob. Emmanuel Combes, professeur à la Schema Business School et qui a publié notamment les chroniques décalées d'un économiste aux éditions Concurrence L'Opinion. Et puis Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge, la 27e édition des Fortunes de France, le classement 2022 des 500. C'est la une traditionnelle du numéro d'été de Challenge. On se faisait une réflexion un peu cynique pendant la pub. Si on fait des prix différenciés, on enverra les gens qui sont éligibles au bas prix pour faire nos courses à notre place.
Oui, un arbitrage, ce qu'on appelle de l'arbitrage.
Vous imaginez le truc.
Et vous avez même un second effet économique, c'est que lorsque vous faites, ça s'appelle de la discrimination par les prix, vous élargissez la taille du marché et donc paradoxalement, vous allez augmenter la consommation.
J'aimerais vous faire réagir juste à cette phrase avant de revenir sur les conclusions d'Aix. C'est très mal perçu de dire du bien d'Emmanuel Macron. Vraiment, il vaut mieux avoir un affable. L'avis est souvent assez négatif. Et là, Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, nous dit hier dans les colonnes du Figaro, Emmanuel Macron est un président très compétent. Un travail d'attractivité extraordinaire a été accompli depuis son élection en 2017. JP Morgan qui a passé de 290 à 900 personnes ses effectifs sur le sol français, notamment d'ailleurs en raison du Brexit, c'est vrai. Quand on a le droit de dire ça?
Écoutez, moi, c'est indéniable que les réformes fiscales du début du premier quinquennat Macron et les lois travail ont certainement contribué à la création des 1 200 000 emplois. C'était du jamais vu depuis des décennies, quoi. Et donc, on a fait baisser le chômage comme on l'avait jamais fait baisser. Et du coup, ça a permis d'augmenter, disons, jusqu'au début de la guerre en Ukraine, parce qu'après, les choses se dégénèrent. Mais, disons, au début de la guerre en Ukraine, le pouvoir d'achat pendant le quinquennat avait augmenté pour toutes les catégorie de la population, grâce à cette augmentation du taux d'emploi, du taux d'activité et des baisses d'impôts, le pouvoir d'achat a augmenté pour toutes les catégories de la population. Donc, c'est quand même une... Et la France est devenue un pays beaucoup plus attractif. Il y a eu beaucoup de créations d'entreprises comme jamais il y en avait eu avant. Ça, c'est à mettre à son crédit.
On a commencé
sûr.
À ouvrir...
Ça, c'est indéniable. On ne peut pas l'enlever. Non, absolument.
Il y a un décalage complet entre la perception d'Emmanuel Macron en France et à l'étranger. Il y a des sondages, les Américains font ça très bien, des sondages internationaux sur la popularité des leaders mondiaux. Il est en tête, hein. Il est plus populaire au niveau mondial que Joe Biden ou Olaf Scholz. Alors, vous direz, faute de grive, etc. Mais quand même, c'est quand même un atout formidable. Et l'attractivité, elle est là. Hein, il y a des points extrêmement positifs. Alors après, il y a des points noirs. Moi, j'en vois trois. La production industrielle qui reste, qui a pas du tout retrouvé. Ouais. Donc, on est du côté de Love et de Philippe, qui a pas retrouvé ses niveaux d'avant Covid. Je pense une productivité à marché du travail qui débloque complètement, offre et demande, montée en flèche de l'absentéisme. Pareil, l'absentéisme est beaucoup plus élevé qu'en 2019.
Et c'est la responsabilité de l'exécutif.
Oui, mais il y a quand même, il y a quand même un gros problème en France là-dessus, et avec le corollaire qui est la réforme d'urgence. On va y consacrer un numéro à la rentrée de l'éducation nationale, le job n'a pas été fait. Il y a eu des bouts qui ont été faits.
Je suis totalement d'accord.
Mais le job n'a pas été fait. Et puis, vous rajoutez les finances publiques, quand même.
Oui. Bon, si vous faites on sur le sujet de l'éducation, ça y est, Philippe Aguillon
parle. Mais pareil, sur la production industrielle, mais on ne va pas trop. Ou alors, on fait une journée spéciale.
Que retenir, Philippe Aguillon, de la déclaration finale des rencontres d'Aix-en-Provence autour de. Alors, le thème, c'était l'état d'urgence économique. Et il y avait. 7 décisions à prendre dans 7 domaines, pouvoir d'achat, logement, mais pas que. Quel est l'état d'esprit que vous retenez de ce qui s'est passé pendant 3 jours à Aix-en-Provence cette année, compte tenu du climat que nous décrivons? Je me faisais la réflexion ce matin. Le monde, si on le regardait avec nos yeux de janvier et nos yeux de juillet, Mais c'est... Oui. C'est juste, c'est
juste un autre monde. Il y a la guerre en Ukraine, voilà. Il y a eu des gros chocs qu'on prévoyait pas, quoi. Donc, alors c'était intéressant à Aix parce que beaucoup de chefs d'entreprise qui disent qu'ils n'arrivent pas à embaucher. Mmh. C'est intéressant.
Tous, en fait. Et à tous les niveaux de qualification.
Voilà, donc ça c'était quand même une chose qui revenait très très fortement. Donc il y a vraiment tout le problème de la qualification et puis de donner envie. Mais ils n'arrivent pas aussi à embaucher parce qu'ils ne payent pas assez, quoi. Je crois qu'il va y avoir le sujet des salaires. Mmh. Et là, une des choses que peut-être le gouvernement va essayer de tenter de faire, c'est de favoriser la négociation par branche. Parce qu'on sait que souvent, une entreprise ne va pas augmenter ses salaires, parce qu'elle dit, sinon, si moi j'augmente unilatéralement mes salaires, ben, je deviens moins compétitif que mes concurrents directs dans le même secteur. Donc il va falloir inciter à des accords par branche qui permettront des augmentations de salaire. Bon, il faut qu'elles soient raisonnables avec la productivité. Mais c'est vrai que dans un certain nombre de secteurs, par exemple, la restauration est un secteur où les marges ont beaucoup augmenté.
Elle a fait un effort salarial de la restauration, avec un accord de branche, justement.
Oui, il y a eu, voilà. Mais il y a d'autres secteurs où des efforts peuvent être faits davantage, probablement. Mais comme la négociation ne se passe pas assez par branche, ces augmentations de salaire n'ont pas lieu. Donc je crois qu'en partie, le manque d'attractivité est dû au fait que les salaires sont trop bas. Et parce que la négociation par branche ne marche pas. Alors peut-être qu'il y aura d'autres choses qui seront faites dans ce sens-là. Hein. Je veux pas de... Donc voilà, je pense que ça... Ce que j'ai retenu, sinon, Aix, un petit peu, l'idée de dire, voilà, il faut... c'est une situation très difficile, mais c'est l'optimisme positif. C'est-à-dire, c'est l'optimisme de dire, voilà, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Donc effectivement, donner la priorité au pouvoir d'achat des plus modestes, donc avoir quand même une politique budgétaire sérieuse, donner le pouvoir de priorité au pouvoir d'achat des plus modestes, faire des efforts de réduction de dépenses publiques, réforme de l'État, il faut la reprendre, puisque le Cap 22 n'a rien donné du tout, enfin, pas grand-chose, il a un peu, mais pas assez. Et il faut reprendre le chantier du Cap 22, à mon avis, qui n'a pas été. On n'a pas vraiment eu une réforme de l'État comme on en a eu en Suède ou ailleurs, quand on a créé les agences.
Mais la MAP Hollande ou la RGPD.
Il
n'y
a pas eu. Voilà. Ça, il n'y a pas eu. Donc ça, c'est un chantier. Et puis, il y a le chantier des retraites. Et là, je crois que mon élément d'optimisme, c'est que je pense qu'il peut y avoir un accord, en tout cas, sur l'idée de la durée de cotisation. C'est-à-dire que je crois qu'on va vraiment abandonner l'âge légal. Je crois que ça va être abandonné. Et je suis optimiste que s'il s'agit d'accélérer la procédure Touraine, et donc d'agir sur le levier durée de cotisation pour augmenter le taux d'activité, en fait, pour réduire les dépenses récurrentes. Ouais. Je pense que là, il y a possibilité d'accord. Voilà, je suis reparti de Aix avec le sentiment que, à la fois du côté des syndicats et du côté du gouvernement, on pouvait converger vers quelque chose qui permette de débloquer le dossier des retraites. Mais peut-être que je suis trop optimiste.
Non, mais voilà. Il y a quelque chose sur ce sujet-là, parce que je connais votre position sur la réforme des retraites. Il y a une analyse qui m'a fasciné la semaine dernière de Stéphane Carcillo, qui est également membre du CERF, qui connaît bien ces sujets et qui nous a expliqué par le menu que, oui, effectivement, allongement de durée de cotisation est probablement le socle d'une négociation qui peut aboutir à un compromis. Mais, dit-il, c'est la borne d'âge qui fait qu'on garde plus longtemps les vieux dans l'entreprise. Et la borne d'âge, c'est comme une anticipation d'inflation. C'est un marqueur. Et si cette borne d'âge, elle passe de 62 à 64, vous avez l'ensemble du marché de l'emploi qui va se décaler vers cette borne. Alors que la durée de cotisation n'aura pas l'effet.
Ouais, mais ça ne marchera pas. La borne d'âge sera inacceptable.
Ben oui, je sais que c'est inacceptable.
Elle se fera pas.
Ben oui, je sais.
C'est un... Voilà. Bon. Donc je crois qu'il faut... Voilà. On veut toujours plus, mais... voilà, il y a ce qu'on... La politique, c'est la science du possible.
Hein. Ouais, moi, ce que j'ai bien aimé dans la déclaration finale, c'est que la notion d'urgence est bien présente et qu'on ose quand même dire certaines
choses. Et alors, elle dit quand même la déclaration finale, que comme on va faire ces efforts budgétaires, alors on a la crédibilité nécessaire pour faire les investissements dans l'éducation, dans la transition énergétique, dans la recherche et l'innovation. Et ça, cette ligne-là, on la garde. Et cette ligne-là, elle est importante non seulement pour augmenter notre potentiel de croissance à long terme, mais c'est également, comme on en a discuté tout à l'heure, même quand vous parlez d'inflation, il faut cependant là, il faut cette politique de l'offre. Donc c'est vraiment de dire, je cible sur les ménages modestes, je fais une réforme de l'État et une réforme des retraites, et ça me donne la crédibilité pour faire une politique de l'offre conséquente, éducation, santé, innovation et transition énergétique. Et ça, je crois que c'est une ligne qu'il faut garder, quoi.
En tout cas, ce que j'ai bien aimé, c'est que des sujets un peu tabous étaient malgré tout abordés dans cette déclaration finale d'Aix-en-Provence, notamment sur le logement. Vous aviez l'air dubitatif, Manuel.
Non, moi je partage le message d'optimisme de Philippe. Il y a simplement un point que je crois pas.
Faut essayer de le rester parce que sinon.
Oui, il y a un point sur lequel je balle tous les jours. J'y crois pas. En tout cas, faut qu'on me donne la méthode. C'est la réforme de l'État. Enfin, quand j'étais étudiant, on parlait déjà du modèle suédois. J'adore le modèle suédois. Sauf que la France n'est pas la Suède. Et même chose pour l'éducation. On m'a toujours pas donné. J'ai fait quand même 3 ans en cabinet au ministère de l'Éducation nationale. Moi, j'ai toujours pas compris comment on réformait l'éducation nationale. Ou plus exactement, je sais comment on fait, mais c'est inacceptable socialement. C'est en mettant de la concurrence en réalité entre les établissements.
On va bien devoir y aller.
plutôt qu'en mettant de la concurrence entre les élèves. Parce qu'il y a de la concurrence en France entre les élèves, mais pas entre, moins entre les établissements. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le deuxième point, j'ai un peu de mal à y croire, la réforme de l'État, mais en effet, l'idée d'allonger la durée de cotisation, et puis le point très important, à court terme, il faut aller vers le chèque one shot, 12 mois, pour soutenir les personnes les plus fragiles, bien entendu. Mais la réforme de l'État, c'est comme un serpent de mer. Et on ne nous explique jamais comment on fait.
Oui, c'est vrai. Il y a une task force qui a été annoncée par Bruno Le Maire.
Quand on délègue à des niveaux inférieurs, bah que le centre se défasse de la prérogative. Voilà, c'est des choses qu'on ne sait pas faire suffisamment.
Réforme de l'État, il y a quand même des choses qui ont été faites au niveau de l'État. Il y a d'autres fonctions publiques qui sont en crise. On parle territorial, on parle aussi italienne. Mais sur l'État, il y a quand même des choses qui marchent. Hein. Je sais pas, la fonction, la levée de l'impôt, par exemple, ça n'a jamais aussi bien marché. Hein. C'est remarquable.
Ah bah c'est...
La retenue à la source, c'est un truc dingue qui a été fait.
Hein. Une vraie réussite.
Et c'est une vraie réussite. Donc,
on pense la machine globale.
Mais je pense qu'effectivement, après, il y a des poches d'inefficacité. On l'a bien vu, malheureusement, pour la période du Covid, sur le sanitaire, les hôpitaux. Il y a des trucs où là, il faut reprendre le terme urgence. Urgence éducation, urgence système de santé, et je pense qu'il faut avancer comme ça. Et poursuivre les choses qui ont été faites. Hein. Je vous rappelle que toutes les réformes là sont en train d'être petit à petit. Par exemple, la réforme du chômage, hein, ça devait être le 1er novembre. Là, on a appris, ça a fait une brève... on a appris que c'était reporté sine die, si vous voulez. Hein. C'était quand même... On y est arrivé, ça avait été imposé. Enfin, ça avait été un dur combat, mais utile. Et on parlait de la crise du marché du travail. Elle passait aussi par cette réforme, qui est... donc, il y a... Moi, le...
À mon avis, c'est l'autre... Avec les retraites, c'est l'autre grande réforme.
Voilà. Mais bon, les retraites, c'est compliqué. Là, le chômage, ça devient très compliqué. Et après, donc, il faut reprendre le travail. Et on a la chance... Alors, on a la malchance de ne pas avoir de majorité, à mon avis. Mais on a la chance, du coup, d'avoir un vrai débat qui devrait être démocratique sur ces différentes réformes. Et on a la chance d'avoir un président qui ne va pas se représenter. Donc ça, c'est aussi, ça donne une certaine liberté.
L'autonomie est une chose...
La dépense d'État n'est pas plus élevée élevée en France que dans les autres pays. Ouais. Mais la dépense publique, oui.
Oui, Pierre... pour moi, on aura de véritables réformes de l'État que si d'abord on se pose la question, l'État doit faire quoi?
Ah, bien sûr.
Et revenir sur
évidemment. Le périmètre.
Juste pour nuancer un peu ce que disait Pierre-Henri, c'est pas parce qu'il y a eu des succès locaux, et tout le monde reconnaît que le prélèvement de l'impôt à la source, c'est génial, mais comparaison n'est pas raison. L'éducation nationale, on parle de centaines de milliers de personnes, c'est une grosse machine, et je ne vois pas de consensus sur la manière de réformer. Alors on peut répéter à longueur de journée, il faut que l'éducation nationale se réforme, force est de constater que ça ne marche pas. Donc moi j'ai un peu de doute là-dessus, le modèle à la suédoise, etc., c'est génial.
Mais il y a des idées formidables d'Emmanuel Combes et Philippe Aguillon.
On est d'accord, oui, sur les externats d'excellence.
Je vous conseille de lire, les externats d'excellence. Emmanuel est trop modeste, en fait.
Je vous ai retrouvé...
Sur les externats d'excellence.
Mais oui, Philippe Aguillon, j'ai retrouvé vos...
Il est trop modeste, mon ami Emmanuel.
Retrouvé vos propositions dans la déclaration finale, la Barda notamment et tout ça. Bon. Je prends toujours cet exemple parce que effectivement, dépenses publiques, comment faire efficacité.
Mais c'est vrai que la nouveauté, c'est de dire voilà, il faut dépenser, mais il faut une bonne gouvernance. Par exemple, les écoles, on sait pour les écoles que bon, la taille des classes c'est important, mais la qualité des profs c'est important et le suivi des élèves c'est important. Alors il y avait cette idée d'externat d'excellence parce qu'il y a eu des centres d'études, un Greece qui a eu le prix Nobel d'économie l'année dernière et d'autres qui ont montré l'importance de ces ingrédients. Tout le défi, c'est de les introduire dans le système français. Alors, ça voudra dire probablement plus d'autonomie du chef d'établissement, c'est-à-dire concilier, un peu comme les Finlandais le font, un curriculum national et des standards nationaux en matière de qualité et de programme, et une certaine autonomie dont a besoin le chef d'établissement pour pouvoir réaliser le contrat pédagogique. Voilà. Mais je pense que on peut aller vers ces éléments-là. Je crois qu'il y a... Et il y a eu, aux États-Unis, il y avait les fameuses charter schools qui sont, elles, privées, mais il y a eu des écoles publiques qui ont intégré des éléments des charter schools et qui, du coup, ont beaucoup mieux marché. Je pense qu'il faut regarder ce qui marche bien. Évidemment, la France, c'est pas les États-Unis et pas d'autres pays, mais je pense qu'on peut avancer dans cette direction, notamment celle des externats d'excellence dont sur lesquels on a travaillé avec Emmanuel. Sur les hôpitaux, il faut donner davantage d'autonomie aux hôpitaux. Et c'est vrai qu'il y a trop d'administration sur le dos des médecins dans les hôpitaux, et puis les hôpitaux devraient avoir davantage d'autonomie également. Donc là, il y a un certain nombre de propositions. Je pense que sur ces sujets-là, et je suis d'accord, ça se discutera beaucoup à l'Assemblée, mais je pense qu'il y a des idées. Et pendant la campagne, il y a eu différents candidats qui ont émis des idées intéressantes. Même Pécresse, j'avais vu, elle avait dit des choses intelligentes sur la santé, sur l'éducation, et d'autres candidats. Et je pense que, voilà, il faut... Mais c'est toujours l'idée de dire, il faut que... on peut mettre de l'argent, mais avec de la bonne gouvernance, et avoir des critères de performance à l'arrivée, quoi.
Oui, pas que de la bonne gouvernance.
Regarde, par exemple, les Portugais. L'éducation, c'était catastrophique au Portugal. Ils ont remonté la pente formidablement. Ben, comment ils ont fait? C'est intéressant d'aller regarder.
Pas que de la gouvernance, de la communication. La communication, c'est au moins aussi important que ce que l'on fait. Enfin, on va en parler avec l'étude de Stancheva. Et typiquement, quand vous parlez de autonomie des établissements, on entend, une partie des Français va entendre, ok, donc ça veut dire qu'on renonce à l'idée que nous avons des objectifs communs en matière d'éducation. Il faut bien expliquer que le programme, le baccalauréat restera national, que c'est bien, mais que c'est la méthode, c'est le moyen. Mais ça veut dire qu'il y a un travail de com' mais qui est énorme. Et on va le voir avec l'étude de Stancheva. Quand vous dites, vous expliquez aux gens la mesure avant de leur demander ce qu'ils en pensent, mais vous changez le résultat.
Avant d'évoquer cette étude, juste un exemple, parce que je le cite souvent, à propos justement de comment... redéfinir le périmètre de l'action publique, réduire sa dépense publique et gagner en efficacité. Alors, vous allez me dire, c'est un exemple qui n'est pas forcément duplicable, mais j'avais trouvé extraordinaire les 15 années du maire de Plan-de-Cuq, aux portes de Marseille. Il arrive à la tête de cette ville, alors vous savez, c'est des villes où le gars va se représenter systématiquement parce que personne ne veut faire le job. Il a, par rapport au reste du pays, il a un niveau de prélèvement obligatoire monumental dans sa ville, un niveau de dépense publique monumental, et il se dit, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Et donc, au fil du temps, c'est pas du jour au lendemain, il va considérablement externaliser des quantités de services assurés par la municipalité et il va totalement inverser ses dépenses et totalement inverser ses prélèvements obligatoires en externalisant des quantités.
Oui, mais externalisation, on va comprendre, délégation au privé. Donc il faut bien expliquer qu'à nouveau, c'est un moyen le privé, mais que la finalité est publique. Et ça, il y a un énorme travail de com. Et la com, c'est fondamental.
Est-ce que c'est ce qu'on a besoin d'avoir un service public pour s'occuper des cantines dans les écoles? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un service public pour s'occuper des parcs et jardins dans les villes? Enfin, je ne suis pas certain. Je prends des exemples anecdotiques. L'étude Stancheva, en fait, ses conseils d'analyse économique. Ça porte sur l'appréciation des Français par rapport à la taxe carbone. Et on est tous d'accord, mais par contre, on n'est pas tous d'accord pour payer. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette
Il y a deux lectures. Il y a la lecture optimiste qu'en fait Stancheva elle-même. Donc c'est une enquête, je trouve ça assez...
Stéphanie Stancheva, hein, qui est une jeune économiste absolument fabuleuse, fascinante.
Prof à Harvard. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a interrogé les Français sur ce qu'ils pensent vraiment. Alors la lecture optimiste, qui est la sienne, moi je suis un petit peu moins optimiste quand on regarde dans le détail. La lecture optimiste, c'est de dire en réalité, les Français n'aiment pas la taxe carbone parce que d'abord on leur a mal expliqué. Et elle fait une petite test intéressant. Vous demandez à une personne si elle est pour ou contre la taxe carbone, majoritairement non, et vous lui dites maintenant, avant de te demander ta réponse, on va te faire regarder une petite vidéo. C'est pourquoi la transition climatique, c'est important. Et puis après, on repose la même question. Et on voit que ça change assez fortement le résultat. Et on revient sur notre problème de tout à l'heure. C'est pas une histoire de gouvernance, c'est aussi une histoire de com. C'est très important d'expliquer avant de faire. Donc le premier enseignement de l'étude, c'est on a besoin d'informer. Continuer à expliquer en permanence. Donc trouver les bons leviers, les bons supports. Il y a un second point super intéressant, c'est que les Français vous disent la taxe carbone, pourquoi pas, si, à deux conditions. D'abord, redistribuer aux plus fragiles et surtout l'affecter à la transition environnementale. En clair, il faut dire ce qu'on va faire avec cet argent. On l'a jamais dit, ça.
Jamais.
C'est
le schéma Arthur Pigou.
Mais mettez-vous à la place d'un Français que je suis, il va se dire, finalement, c'est juste une taxe. En fait, c'est un impôt déguisé. Alors qu'on le rappelle, le but de la taxe carbone, c'est pas d'avoir des rentrées fiscales. La meilleure taxe carbone, c'est celle qui rapporte zéro, parce que justement, on a changé de comportement. C'est une taxe incitative. Et donc, c'est intéressant ce discours qui est de dire non à la taxe carbone, vous disent les Français, sauf si elle est affectée. Vous voyez, le design des politiques publiques est au moins aussi important que la politique publique elle-même. Dire je veux faire la taxe carbone, ça passera jamais. Si vous mettez ces précautions, qui ne sont pas seulement des précautions de com', aussi d'affectation, vous avez peut-être une chance de la faire exister. Alors là où je suis un petit peu moins optimiste que les auteurs, c'est quand on regarde en détail, les Français vous disent quand même, la meilleure politique, c'est de faire des investissements verts pour qu'on soit green, et du coup on n'aura plus besoin de la taxe carbone. En clair, on veut la transition climatique, mais sans la facture et sans la douleur.
Le problème, c'est que
tout le monde est... Et il y aura toujours la facture.
Tout le monde est d'accord pour dire que ça va coûter cher, très cher et très
alors
important.
Alors que la lutte efficace contre le changement climatique, c'est d'un côté la taxe carbone pour donner les bonnes incitations, parce que ça donne aux entreprises incitation de produire plus vert et d'innover plus vert. Ça, on le sait. Mais en même temps, ils font compléter le prix du carbone, le levier prix, par un levier investissement et politique industrielle. Il faut à nouveau les deux leviers. Il y a à la fois une inefficacité environnementale directement, mais aussi des externalités technologiques, c'est-à-dire que ceux qui ont innové dans des technologies polluantes dans le passé tendent à innover encore demain dans des technologies polluantes. Donc quand on a deux inefficacités, c'est ce que disait Emmanuel tout à l'heure, il faut au moins deux instruments, le prix du carbone et la subvention à l'innovation verte ou la politique industrielle verte.
Moi, juste un mot. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé ces dernières semaines. C'était la tribune de nos trois, enfin la patronne et des deux grands patrons de l'énergie, qui ont présenté le discours sur la sobriété. Oui. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable que ça soit pas les pouvoirs publics qui préemptent de ça. C'est quand même leur job. Alors ça fait vintage, ça fait un peu trop quand vous discutez justement avec des communicants. Ils vous disent mais ça fait trop années 70, ça rappelle 73, etc. Je vous rappelle les campagnes chasse au gaspillage. C'était un petit bonhomme qui rigolait. La sobriété, elle était quelque part vertueuse et heureuse. Elle est devenue punitive. Notamment à cause de l'usage de ce terme taxe carbone. Une taxe, ça ne peut jamais être sympa.
Compensation et carbone aux frontières.
Voilà. Mais si vous voulez, là, et je pense que là, on parlait des efforts de pédagogie à faire, et je pense qu'il y a un consensus autour de ça, qu'on ne peut pas vivre, les gens, en particulier les jeunes générations, mais pas seulement, ont compris qu'on ne pouvait pas vivre, mais c'est devenu extrêmement conflictuel, bizarrement, je trouve. Donc on est dans des positions très dures sur on va boycotter les avions, etc., mais on prend quand même l'avion.
Mais
il faut rétablir le dialogue, et je pense, alors je ne sais pas, c'est le boulot, moi pour moi, c'est un travail européen. Les Allemands sont quand même plus avancés là-dessus, ils vont l'être... on ne sait pas quand ils vont passer l'hiver, mais il faut préparer les gens, faire une campagne. Et moi, encore une fois, j'ai trouvé ça bizarre. Alors bon, là, on passe un peu au cynisme, c'est que je pense que ces trois grosses majors françaises de l'énergie ont compris qu'elles avaient vraiment un danger de se prendre une taxe super profit, donc il fallait qu'elles changent leur image très vite.
Mais c'est au
gouvernement de faire ça, qu'on investisse de l'argent là-dedans.
Je voulais parler de la dimension éducation qui est très importante.
Et on dit un mot de l'Ukraine, parce que vous vouliez en parler aussi.
Mes deux amis. C'est-à-dire que j'ai fait une étude avec Roland Benabou, Alexandra Roulet et d'autres co-auteurs, où on a montré qu'en fait, dans les pays où les consommateurs ont conscience que l'environnement, c'est important, donc c'est l'aspect éducation dont parlait Emmanuel, et donc, eh bien la concurrence pousse à l'innovation verte. Parce que si je suis dans un pays où les consommateurs veulent du vert, si moi je suis tout seul, je peux dire, de toute façon, ils sont obligés d'acheter chez moi, même si je ne fais pas du vert, c'est pas grave. Mais si j'ai Emmanuel qui arrive et lui, il est vertueux, il produit du vert, je me dis, même si je ne suis pas vertueux, que je ne fais pas du vert, je perds mes clients et ils vont chez Emmanuel. Donc la combinaison de éduquer et informer le public d'un côté et la concurrence de l'autre, cette combinaison-là, eh bien, c'est l'équivalent d'une énorme augmentation du prix du carbone. C'est un levier fantastique qui oriente les consommateurs et donc les producteurs vers la production verte et l'innovation verte. C'est juste très intéressant. C'est un levier. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas juste reposer sur le prix du carbone. Le prix du carbone est très intéressant. Mais le mélange éducation-concurrence est un formidable levier d'innovation verte.
Et la concurrence tout court. La concurrence, on avait écrit là-dessus, la concurrence, en réalité, contrairement à l'intuition, l'intuition, c'est plutôt de se dire la concurrence augmente les quantités puisqu'elle fait baisser les prix et donc elle augmente la pollution. En réalité, vous avez un effet inverse. La concurrence est l'allié de la transition. Transition.
Et si elle est alliée dans un pays où les gens sont conscients qu'il faut faire l'environnement.
Ont des préférences.
Sinon, elle peut aller dans l'autre sens. Ouais.
Vous vouliez dire un mot de l'Ukraine, Philippe Aguillon?
Non, mais je vais dire un truc pour vous choquer,
peu.
Comme tout le monde, je suis horrifié par cette guerre, par ce que les Russes ont fait, je ne suis pas là du tout pour défendre le régime russe que je honnis. Mais je pense qu'il va devoir y avoir un moment où il faudra qu'on discute avec les Russes. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, alors il faut que c'est ça les Américains, quoi. Il faudra qu'à un moment donné, il y ait une discussion, un espèce de Yalta. Yalta, un Yalta, un nouveau Yalta, où on se met autour d'une table. Alors il y a un plan italien, il y a un plan italien qui dit voilà, par exemple, le Donbass et la Crimée pourraient être rester sous souveraineté ukrainienne, mais devenir autonomes d'un point, même en matière de défense, arriver à un accord qui fait que, eh bien, il y a un cessez-le-feu et que on relâche la pression. Je pense que voilà, et j'espère beaucoup que ça va se passer. Voilà, et donc peut-être qu'il y a déjà des pourparlers secrets, mais je pense qu'à un moment donné, l'idée de dire on va complètement gagner sur les Russes et on va récupérer la Crimée et le Donbass, ça me paraît totalement irréaliste à court terme. Et peut-être qu'on va être obligé de faire comme Yalta avait été, c'est-à-dire il y avait ça a duré ce que ça a duré. Après, il y a eu la chute du mur de Berlin. Mais j'espère, parce que je pense aussi que ça aura un impact énorme sur l'économie mondiale. Mais j'espère beaucoup qu'il y aura à un moment donné une discussion. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il faut cesser d'armer les Ukrainiens. Au contraire, il faut les armer, mais il faut les armer pour négocier, pas pour ne pas négocier. Et je pense qu'il faut aller vers quelque chose comme ça.
Parce que
et peut-être après repenser à la reconstruction de l'Ukraine. Voilà. Mais je pense, je crois vraiment, j'espère vraiment que quelque chose comme ça va se passer dans les mois qui viennent.
Pour l'instant, les sanctions sont un échec, disait Philippe Martin hier dans les colonnes.
Oui, mais je lui avais toujours dit à Philippe. On avait cette discussion là il y a 3 mois.
Oui, mais je me souviens.
Je suis pour les sanctions. Je suis pas du tout contre les sanctions. Mais je pense
les sanctions, elles ont augmenté de 30% les recettes des Russes.
Logique.
Voilà.
C'est ça la situation.
Mais maintenant, je crois le temps est venu de négocier, de discuter. Et il y a un plan italien. Eh ben, il est peut-être pas mal, ce plan.
J'ai pas vu le plan italien.
Ah, il est pas bête.
Bon. On a 2 minutes, 1 minute 58. Qu'est-ce qu'on dit pour terminer? J'avais quand même je voulais vous poser une question. On parlait des salaires, là. Je reviens un peu en arrière. Est-ce que vous, parce que je sais que le sujet a été en discussion parmi les membres du Cercle des économistes. Et la question du coup de pouce au SMIC. Est-ce qu'il y a un moment, il faut aller vers... Le SMIC va augmenter de 1302 euros net par mois à 1328 euros net par mois pour un temps plein à 35 heures, car c'est un salaire horaire le 1er août. C'est la hausse mécanique liée à l'inflation. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un geste politique sur le SMIC ou pas, selon vous? Quelqu'un a un avis? Personne? Non, vous n'avez pas d'opinion. Vous n'avez pas d'opinion.
Bon. Un petit mot sur la défiscalisation des heures sup.
Un petit mot sur la défiscalisation des heures sup. Là, c'est un sujet sur lequel, visiblement, le gouvernement va lâcher du lest.
C'est une bonne mesure de pouvoir d'achat, mais attention, on est bien d'accord, ça n'a strictement aucun effet sur l'offre de travail. Il y avait une étude, vous savez, de l'Institut pour les politiques publiques qui avait évalué les effets de TEPA. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les salariés ont déclaré plus d'heures, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont travaillé plus. Donc si l'objectif...
Les heures normales étaient déclarées.
Exactement. Donc si l'objectif c'est d'augmenter la quantité de travail effet zéro, si l'objectif en effet de donner du pouvoir d'achat, mais n'en attendons pas cet objectif
qui était celui en tout cas. C'est peut-être plus malin de monétiser les RTT. Il y a beaucoup de secteurs où effectivement il y a des crédits en travail gigantesques. Ça s'est fait mais dans la fonction publique, notamment au sein de la police. Il y a peut-être des choses intéressantes à faire et ça permettrait de créer effectivement de la richesse.
On avait vu, c'est vrai que sur les heures sup défiscalisées version TEPA, donc la première loi dès que Nicolas Sarkozy était arrivé au pouvoir, en fait c'était du gagner plus en travaillant autant.
Autant. Exactement.
Mais c'est bon
pour le pouvoir d'achat.
Pour le pouvoir d'achat.
Mais ça n'a pas d'effet d'offre.
On a fini.
On a terminé.
Oui, on a terminé là. Donc les Fortunes de France, 27e édition, c'est la une du numéro de challenge du mois d'août. Merci Philippe Aguillon, Emmanuel Combes, Pierre-Henri de Menton. Rendez-vous demain 9h.